Ouais, je voudrais penser à toi, ça y est, c'est mon micro, ça y est, bienvenue à ce deuxième film de Noël sur les 5 webinaires obligatoires de cette série. Aujourd'hui, nous allons voir une introduction à la GNSO. Le représentateur aujourd'hui sera Marika Cummings, vice-présidente du soutien à l'élaboration de politiques de la GNSO. Nous n'allons pas faire l'appel pour ce film de Noël, mais pour ça, nous allons prendre la liste des participants au cours des 10 premières minutes. Votre participation devrait être mesurée pour pouvoir assister à notre sommet. Si vous n'êtes connecté qu'à travers le téléphone, veuillez vous connecter à la salle de Zoom dès que possible, étant donné que c'est une exigence de participation, puisque c'est ainsi que nous allons enregistrer l'appel. Nous avons des services d'interprétation en espagnol et en français pour ce séminaire web. Donc, je vais vous rappeler de bien vouloir intervenir au moment de prendre la parole afin que les interprètes puissent vous identifier sur les autres canaux linguistiques, ainsi que pour la transcription. Et également, parler à un débit raisonnable afin de permettre que l'interprétation puisse être correcte. Toutes les lignes seront enlevées au cours de la présentation et seront ouvertes aux questions et aux réponses à la fin de la présentation. Vous aurez remarqué que ce séminaire web se fait sur Zoom. Les fonctionnalités sont similaires à celles d'Adobe Connect, mais afin de pouvoir voir la liste de participants et le chat, il faut que vous cliquiez en bas de l'écran sur les boutons pertinents. Vous ne verrez le chat que lorsque vous aurez à partir du moment que vous aurez rejoint l'appel, pas avant cela. Pour lever la main, veuillez bien vouloir faire clic sur le bouton de la main. Je vais maintenant céder la parole à Alfredo Calderon, co-président du sous-groupe d'enfants en décapacité de la classe 3. Alfredo, vous avez la parole. Alfredo Calderon, merci beaucoup. Je m'appelle Alfredo Calderon et je tiens à souhaiter la bienvenue à tout le monde à cette deuxième séance introductoire à la GNSO. Il s'agit d'un séminaire web qui fait partie de la série de séminaires web qui sont exigés de tous les participants potentiels au sommet à la fois. Je soulignerai que si vous n'avez pas la possibilité de participer à l'un des séminaires web, vous pourrez suivre le cours en ligne à travers la plateforme iCanLearn pour compléter le processus et obtenir la certification aussi, puisque ça fait partie de notre procédure de certification pour les candidats au sommet 3 de l'ADLAS. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à Marika, experte en élaboration de politique de la GNSO. Elle nous expliquera le fonctionnement de la GNSO et comment nous, les utilisateurs finaux de l'Internet et les participants de l'ADLARGE, pouvons contribuer au travail de la GNSO. Donc, je souhaite la bienvenue à Marika et je lui cède la parole. Allez. Marika Cummings, merci à Fredo et Yeshim de cette bienvenue. Comme vous l'avez dit, je suis Marika Cummings, je suis vice-présidente de l'élaboration de politique, de soutien à l'élaboration de politique, de l'organisation de soutien au nom générique, également connue comme la GNSO, et je suis là aujourd'hui du Costa Rica où je suis basée.
Pourquoi elle me demande le numéro encore là?
Aujourd'hui, dans ma présentation, je reprendrai une vue d'ensemble d'un aperçu de la future et l'opération de la GNSO, du processus d'élaboration de la GNSO et de comment les parties intéressées peuvent participer à ce processus. Dans la présentation, on aura également le temps pour les questions-réponses à la fin. Donc, si vous avez des questions, veuillez bien les noter. Comme vous le savez déjà, la GNSO fait partie de l'écosystème de l'ICANN qui consiste à des organisations de soutien de l'ICANN qui sont responsables de l'élaboration de politiques dans leur secteur respectif et de comités consultatifs qui sont responsables de la fourniture de conseils au conseil d'administration de l'ICANN dans ce qui correspond à leur portée. vous voyez ici la consolidation de tout cela. J'assume que vous voyez des présentations similaires des autres organisations de soutien et des autres comités consultatifs. Donc, je n'entrerai pas dans les détails des autres dans ma présentation, mais bien sûr, si vous avez des questions, je serai contente d'y répondre. Le rôle de la CNSO. La CNSO, d'après les statuts constitutifs de l'État, a la mission d'être responsable de l'élaboration et la recommandation de politiques substantielles au conseil d'administration de l'ICANN liées au domaine de premier niveau générique. Donc, vous voyez la portée des activités de la CNSO ainsi que les mécanismes pour le faire. Ça se fait au sein de la CNSO, mais c'est le conseil d'administration qui a le rôle de supervision et la responsabilité d'adopter ou de rejeter une recommandation de la CNSO qui est formulée à travers ces processus et procédures. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui a la ligne ouverte en même temps. On a une conversation parallèle. Est-ce quelqu'un qui souhaite prendre la parole? Bien sûr, mon micro. Marika, on s'excuse, c'est Yeshimichi. On essaie de mettre en mieux cette ligne. Enfin, m'excuse. Aucun problème, dit Marika. Alors, la CNSO est la partie de l'ICANN qui est responsable de l'élaboration de recommandations de politiques liées On attendra une minute pour voir si on peut mettre en ligne toutes les autres lignes. Marika, on s'excuse de l'interruption, c'est lié chez mon micro. Je voudrais rappeler tout le monde de vouloir garder le ligne en muet. Je suis en train de vérifier avec Aligo pour voir que toutes les lignes, à l'exception de notre présentatrice, Marika Cummings et moi-même, aient leur ligne en muet. Donc, je pense qu'on est prêt à reprendre maintenant. Marika, allez-y. Donc, la CNSO, Marika Cummings au micro, est la partie de l'ICANN qui est responsable des recommandations de politique liées au nom de domaine générique de premier niveau, ou GTLD, comme on le connaît autrement. Le conseil de la CNSO peut s'y intégrer et vous voyez ici une photo de la composition actuelle de la CNSO à l'écran qui suit la responsabilité de superviser les processus d'élaboration de politique. C'est eux qui doivent s'assurer que toutes les étapes ESG soient respectées. Le conseil respecte la communauté de la CNSO et consiste de 21 membres du conseil des différents groupes de parties prenantes et des différentes unités constitutives qui intègrent la CNSO, ainsi que de différents membres qui sont désignés par la NAMCOM. Il y a également des membres de liaison d'un nombre de groupes qui viennent, entre autres, du comité consultatif à large, par exemple, qui est un agent de liaison auprès de la CNSO, au conseil de la CNSO, qui est au milieu de la photo, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez ici les deux champs qui intègrent le conseil de la CNSO. La structure de la CNSO étant divisée en deux chambres. Un des membres du conseil de la CNSO est la chambre des parties contractantes, c'est-à-dire les parties prenantes avec qui l'ICANN a des contrats, c'est-à-dire les opérateurs de registre et les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN. Et il y a également une chambre des parties non contractantes qui consiste aux parties prenantes qui n'ont pas de contrat avec l'ICANN, mais qui ont des intérêts qui peuvent être divisés entre ceux qui ont des intérêts commerciaux, donc qui sont regroupés dans le groupe de parties prenantes commerciales, c'est-à-dire l'unité constitutive des utilisateurs commerciaux, l'unité constitutive de la propriété intellectuelle et celle des fournisseurs de services Internet et le groupe des parties prenantes non commerciales, c'est-à-dire les unités constitutives non commerciales qui comprennent l'unité constitutive des utilisateurs non commerciaux et l'unité constitutive des participants qui ont des activités à des buts non lucratifs. Entre les deux, ils vont désigner des représentants au sein du conseil de la CNSO, ce qui composera donc le conseil de la CNSO. la structure de chambre est également importante au moment de voter au niveau du Conseil de la GNSO, parce que l'équilibre du pouvoir entre les deux est divisé entre les structures de chambre, où chacune des chambres a un pouvoir de vote égal au Conseil de la GNSO. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a également trois désignés par le comité de nomination, MOMCOM. Donc, un appartient à chacune des chambres, et puis il y a un autre membre désigné par le NOMCOM, sans droit de vote, qui n'appartient à aucune des deux chambres. Comme je le disais, il y a également la division des personnes qui n'appartiennent à aucune communauté. Mais il est important au moment de voter de savoir à quelle chambre appartiennent les personnes pour voir s'il y a suffisamment de membres de chacune des deux chambres. Toujours dans le but d'avoir un équilibre. Voici les dirigeants actuels du Conseil de la GNSO. On a donc un président de la GNSO, une vice-présidente ou un vice-président de chacune des chambres. En ce moment, Keith Brayton, du groupe de parties prenantes des opérateurs d'enregistrement, est le président de la GNSO. Pam Little, membre du groupe de parties prenantes du bureau d'enregistrement, est vice-présidente de la chambre des parties contractantes. Et Rafik Dama, qui est l'autre vice-président de la GNSO, venant de la chambre des parties non contractantes, et il appartient à la ONTG, au groupe de représentants des parties prenantes non commerciales. Comme je le disais tout à l'heure, la GNSO est responsable de superviser le processus d'élaboration de politique. Il vérifie les activités et considère le résultat final des groupes de travail pertinents. Parmi les recommandations et la considération de ces recommandations, la responsabilité est de voir si les décisions et les procédures ont bien été suivies avant l'approbation de chacune des recommandations. Ce n'est pas qu'il faut refaire les recommandations, mais on a une autre conversation en parallèle également. Donc, en général, ils se réunissent de manière mensuelle à travers des appels de téléconférence. Et il y a également d'autres sujets qui pourraient exiger leur attention. Donc, il y a d'autres responsabilités plus larges pour les différents groupes. Dans le cadre de la nouvelle structure de la communauté habilitée et des responsabilités des différents groupes, pour garantir la responsabilité des structures de l'État et des décisions qui sont prises. En général, le Conseil prend des décisions à travers des motions formelles. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des seuils de vote spécifiques qui sont associés aux différentes décisions liées aux activités de politique, et ce sont ces seuils de vote qui sont définis dans les statuts constitutifs de l'ICANN. Il y a une exigence spécifique liée à la présentation de ces motions, comme par exemple au niveau de la ligne chronologique, qui doit être présentée avec 8 jours d'avance pour que les groupes de parties prenantes et les unités constitutives aient suffisamment de temps pour considérer ces informations et pour instruire les membres du Conseil de manière appropriée. Comme je le disais tout à l'heure, même si les différents groupes ont des représentants désignés au Conseil de la GNSO, il est très important pour eux de pouvoir consulter avec d'autres groupes. Et dans certains cas, les membres du Conseil reçoivent des instructions de vote des différents groupes auxquels ils appartiennent. Donc, il est important qu'ils aient suffisamment de temps pour que cette consultation puisse se faire. Le travail d'élaboration de politique en lui-même, il est fait par des équipes ou des groupes de travail de la GNSO. Il est important de savoir que la plupart de ces groupes sont ouverts et toutes les personnes intéressées peuvent participer à leurs activités. Il n'y a pas d'exigence que l'on soit membre du groupe de parties prenantes ou de l'unité constitutive respective de la GNSO. La seule exigence qui existe en ce moment est de présenter une manifestation d'intérêt et que les membres déclarent leur affiliation et leur intérêt. Cela vient du concept qu'il est bien d'avoir un intérêt au sujet qui est débattu, mais qu'il faut en fait, déclarer quel est l'intérêt que l'on a, qui est potentiellement la personne qui vous paye pour que vous participiez à ces activités. Par la suite, on verra quelques autres informations qui ont été partagées récemment, qui sont des alternatives au modèle des groupes de travail de composition ouverte, mais on y reviendra plus tard. Je vois sur le chat une question qui demande si les motions sont votées à la majorité simple, c'est-à-dire la moitié des membres du conseil plus un. Oui, ça c'est le seuil de vote par défaut. Si un seuil de vote n'est pas défini spécifiquement dans le statut constitutif de l'ICANN, alors à ce moment-là, le seuil de vote de majorité simple s'appliquera. Mais il est important de savoir que pour ce qui est de l'élaboration de politiques et des votes y afférents, les seuils de vote sont presque tous définis dans les statuts constitutifs de l'ICANN, étant donné qu'ils ont différents seuils de vote correspondants. Pour ce qui est du processus de vote pour un rapport de politique, par exemple, le seuil de vote sera moins élevé que dans d'autres cas, puisque pour les rapports de politique, l'important est de pouvoir discuter des sujets et de pouvoir bloquer la considération de questions immédiatement. Pourtant, dans le processus, à mesure qu'on avance vers l'adoption, on a des seuils de vote plus élevés qui s'appliquent, comme pour la supermajorité, pour que les différentes recommandations qui sont adoptées puissent avoir la considération et l'adoption de la majorité des participants. Et j'en reparlerai lorsqu'on viendra au contact de la GNSO au niveau de la politique. Maintenant, je voudrais que l'on voit rapidement le processus d'élaboration de politique de la GNSO, à savoir PDP, comme on l'appelle autrement. Ici, vous voyez les différentes étapes de ce processus. Le schéma est un peu considéré un labyrinthe, souvent. On n'aura pas aujourd'hui le temps de voir toutes les étapes du processus d'élaboration de politique, mais je tiens à souligner les exigences fermes, spécifiques, associées à un PDP et à quel point ce processus est solide. Il y a différentes occasions de consultation publique et de contribution du public. Une partie essentielle des processus d'élaboration de politique pour le groupe qui est censé travailler dessus à mesure qu'il avance avec les différentes étapes, puisqu'il a besoin de considération du public pour pouvoir avancer. Il est important de savoir que le processus d'élaboration de politique ascendant n'est pas un marathon. En général, et je le dis comme plaisanterie, mais en général, un bon travail est lorsque tout le monde est d'accord et satisfait du travail. C'est-à-dire qu'on a atteint un bon équilibre et que personne n'a rien à dire du résultat, que tout le monde est satisfait du résultat. Si vous voyez cette autre diapositive, j'ai déjà évoqué ce terme, mais pour avoir des politiques de consensus de la CNSO, il est important de savoir que politique de consensus est un terme défini avec des lettres majuscules. Et ce n'est pas pareil d'avoir une politique de consensus que d'avoir une politique ordinaire qui a été adoptée par consensus. Une politique de consensus a un sens très spécifique dans le contexte de la CNSO. Étant donné que le contrat entre l'ICANN et les bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN et les opérateurs d'enregistre qui sont accrédités exige le respect des politiques de consensus qui doivent être soutenues largement par les parties prenantes de l'ICANN à travers le PDP et qui oblige les parties contractantes à ces politiques de consensus par contrat. Vous imaginerez qu'il s'agit d'une situation très unique, étant donné que ça implique que les parties contractantes doivent être d'accord avec les CAN pour différents termes qui peuvent changer comme résultat d'un processus qui ne correspond pas au contrôle total de les CAN pour le processus, mais qui implique la communauté des différentes parties prenantes, la communauté multipartite. Vous imaginerez que c'est assez différent de la manière dont on négocie les termes ordinairement entre deux parties prenantes. Et en général, on n'a pas de participation des tierces parties qui n'ont rien à voir dans ce sens. Je vois sur le chat quelqu'un qui demande s'il y a une différence par rapport à la manière dont se fait le processus d'élaboration de politique dans d'autres organisations de soutien. La réponse est oui et non. Non, dans le sens où il y a beaucoup de similarités au niveau des mesures qui sont prises. Par exemple, le processus d'élaboration de politiques de la CSNSO est similaire. Et il y a également d'autres parties du processus, par exemple la portée, les sites où l'on fait le travail d'élaboration de politiques. Par exemple, dans le cadre de la CSNSO, tout le travail d'élaboration de politique se fait au niveau de l'ICANN. Les contrats de l'ICANN avec les parties contractantes, les opérateurs de registre, ils font tous la définition d'un sujet pour l'élaboration de politique, le GKLD, mais il n'y a pas d'autres endroits où pourrait se faire ce travail d'élaboration de politique. Si on le compare à la CSNSO, la plupart du travail d'élaboration de politique des CCLD se fait au niveau national. Il y a un nombre limité de sujets pour lesquels la CCNSO, au niveau de l'ICANN, mais ces sujets sont définis dans les statuts constitutifs de l'ICANN. Ça pourrait se faire au niveau de CCTLD ou au niveau national sans la participation ou la supervision de l'ICANN en général. Donc voilà la différence dans la CCNSO. Pour ce qui est de la communauté des Méros, eux, ils font tout le travail d'élaboration de politique au niveau régional. Donc là, s'il y a un accord général entre tous les opérateurs de registre au niveau mondial, ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils présentent cette politique au conseil, à l'ICANN pour l'approbation du conseil d'administration de l'ICANN. Donc, sinon, ils travaillent au niveau régional entre opérateurs de registre. Donc, voilà les différences avec les autres groupes. Je vais également d'autres questions sur à quel point sont actifs en ce moment les différents groupes de travail de politique, combien il y en a et combien de temps il y prend de faire un travail de politique en général. Et il est important de savoir que c'est une course à long terme et non pas de vitesse en général. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais il est important de savoir qu'il y a la possibilité d'avoir différentes contributions des différents acteurs avant de passer aux conclusions des autres. Donc, comme je disais, il y a différentes exigences à respecter avant qu'un travail ne puisse devenir une politique de consensus. La disposition pertinente dans les différents contrats, par exemple, stipule qu'une politique de consensus ne pourrait pas limiter déraisonnablement la concurrence et décrit les sujets qui sont considérés comme étant dans la portée de l'élaboration de politique. Et il y en a que vous voyez ici à l'écran, donc par exemple les différentes politiques. Vous verrez également que les sujets sont décrits de manière assez générale. Donc le processus d'élaboration de politique en général vise à permettre de comprendre ce qu'implique un sujet et de déterminer s'il s'intègre ou pas à ces catégories. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas dire que ce n'est pas un travail d'élaboration de politique. Ça veut dire tout simplement qu'à la fin de la journée, lorsqu'il y aura passé par toutes les étapes pertinentes, il ne fait pas partie de l'ensemble de ce sujet. Il ne sera pas possible pour l'ICANN de faire valoir les exigences là-dessus. Il pourrait par exemple y avoir des situations où la communauté pourrait demander que l'on applique certaines pratiques, ce qui est très bien, mais on aurait un impact qui soit un certain impact, mais qui n'est pas nécessaire de pouvoir faire valoir cette politique et de l'imposer à toutes les parties contractantes, à moins qu'il y ait un accord contractuel. Je voulais également aborder rapidement le concept du picket fence, un terme que vous aurez probablement entendu dans le contexte des conversations de la CNSO. Il est censé décrire l'autorité de l'ICANN pour assurer la stabilité du DNS à travers l'élaboration de politiques, mais cette autorité a une portée limitée, c'est-à-dire que l'autorité est marquée par sa limite. Donc, encore une fois, tout ce qui n'appartient pas à la portée n'est pas exclu. On pourrait très bien établir des politiques et ou des meilleures pratiques pour ce sujet, mais l'ICANN n'aurait pas l'habilité ou l'autorité pour exiger aux opérateurs d'enregistrement ou aux bureaux d'enregistrement accrédités par l'ICANN de se conformer à ces meilleures pratiques. Et c'est pourquoi il me semble qu'il est très important de savoir dans le contexte de la CNSO qu'il existe cette disposition contractuelle qu'on appelle enclos ou picket fence en anglais. pour ceux qui nous ont rejoints un peu plus tard, on aura du temps pour les questions à la fin, mais je fais de mon mieux pour répondre aux questions à mesure que je les vois apparaître sur le chat. On me demande qui peut initier une nouvelle politique. La première étape dans un processus d'élaboration de politique est une demande de rapport de problématiques qui peut être présentée par un membre du conseil de la GNSO, un comité consultatif de l'ICAN ou par le conseil d'administration de l'ICAN. Donc voilà les trois parcours à travers lesquels les premières étapes d'un processus d'élaboration de politique peuvent être lancées. Un rapport thématique est véritablement le premier pas pour lancer un processus d'élaboration. C'est un rapport qui est élaboré par le personnel à la demande de quelqu'un pour obtenir toutes les informations disponibles, pour répondre à toutes les questions sur ce qui entre dans la portée, sur les dispositions d'enclos, la capacité de travailler sur quelque chose, sur les conseils généraux. Ce rapport problématique pour définir d'abord la question et pour voir s'il s'avère nécessaire d'avancer avec le travail d'élaboration de politique ou pas, que ce soit demandé par un membre du conseil ou par un comité consultatif de l'ICAN. Dans le cas du conseil d'administration de l'ICAN, ils ont un peu plus d'autorité et donc si c'est le conseil qui le demande, la question va passer directement au lancement formel du travail d'élaboration de politique. Si vous voyez dans les détails les outils et les mécanismes qui existent pour le soutien à l'élaboration de politiques et le rôle du personnel, de moi-même, de mon équipe, et donc de soutenir la communauté de la GNSO au niveau du travail d'élaboration de politiques. Et le travail du conseil de la GNSO consiste à vérifier que tout le travail se fasse, que les personnes puissent se comprendre. On travaille également sur le soutien à l'élaboration de l'ordre du jour, le soutien à la rédaction, à fournir de l'expertise si jamais ça serait nécessaire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le modèle préféré en ce moment est de suivre le modèle des groupes de travail de la GNSO, groupes de travail qui sont ouverts à la participation de tous ceux qui sont intéressés, qui peuvent vous fournir un peu d'informations. Je pourrais vous raconter qu'au départ, lorsque le cabinet a été créé, on avait un modèle d'équipe de travail, task force, pas working group, où chaque groupe qui était représenté au sein du conseil pouvait désigner un membre à l'équipe de travail. Mais cela était limité à la participation de membres de la GNSO. Il n'était pas possible que d'autres comités consultatifs, d'autres organisations de soutien participent à ce processus. Outre les périodes de consultation publique, bien sûr. Donc, dans une des premières révisions de la GNSO, il a été décidé qu'il était nécessaire d'avoir une participation plus large. Et les politiques de la GNSO ont bien sûr un impact bien plus élargi, et non pas seulement sur les parties prenantes de la GNSO. Donc, le modèle de groupe de travail a été introduit, présenté, et tous ceux qui sont intéressés peuvent s'y joindre, présentant une manifestation d'intérêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour vérifier quelle est la trajectoire de chacun et quels sont les intérêts de chacun des participants. Pourtant, il a été dit qu'avec beaucoup plus de participants impliqués, avec beaucoup plus de voix qui sont entendues, on a besoin également de plus de temps pour compléter le travail d'élaboration de politique. Au niveau du conseil de la GNSO, vous aurez probablement entendu parler des PDP de la GNSO 3.0, c'est-à-dire que le conseil essaie de vérifier quelles sont les améliorations ou les renforcements qui pourraient être considérés pour garantir l'efficacité des PDP sans laisser de côté les exigences de responsabilité, de participation, de représentativité, etc. Et je reviendrai plus tard au niveau modèle qui est appliqué désormais à la GNSO, et je pense que ce que nous voyons en ce moment est que le conseil pourrait décider au cas par cas en général et évaluer les besoins de chaque sujet, quelle est la meilleure approche pour s'assurer que le travail soit correctement fait sans s'assurer que ceux qui sont intéressés intéressés à ce sujet puissent se faire entendre et participer d'une manière ou d'une autre. Comment participent typiquement les différents participants? Bon, les réunions se tiennent en général par téléconférence, on se réunit de manière hebdomadaire pendant une heure, pendant 15 ou 20 minutes. Certains groupes de travail ont des sous-groupes. On a récemment un groupe qui s'est réunissé deux fois par semaine parce qu'il devait respecter une date butoir spécifique, mais en général, ça va dépendre de l'opérateur de chaque groupe pour faciliter également la participation à l'élaboration des politiques. Il n'y a pas d'exigence de se présenter de manière hebdomadaire à des réunions physiques. En général, les groupes profitent et se réunissent en personne lors des réunions d'Alicaz s'il y a une quantité suffisante de participants, une masse critique. Pour cela, on a bien sûr des services de participation à distance qui sont mis à disposition et pour chaque réunion, on fait circuler des actions à suivre. Les réunions sont enregistrées et transcrites pour que tout le monde puisse y participer. Donc, il est important que tous puissent se connecter, tout le monde puisse s'exprimer. On m'a demandé comment peuvent participer les membres de la LAC. Il y a différentes manières pour que ces membres puissent participer. Soit à titre individuel, ils peuvent participer aux délibérations. Si le modèle qui est choisi pour le processus, en l'occurrence, soutient cela. Mais il y a également les processus d'élaboration de politiques accélérées au CDP où la LAC a une quantité suffisante de personnes qui le représentent. Et il pourrait y avoir un mécanisme de sélection de représentants au sein de chaque comité consultatif. J'imagine que la LAC a son propre processus de sélection. Et des fois, il est essentiel d'avoir des consultations publiques. Donc, même si vous ne participez pas de manière active aux appels hebdomadaires, il y a des intervalles réguliers et exigés, obligatoires, auxquels il est nécessaire d'avoir une consultation, d'avoir un vote pour s'assurer que tout le monde soit bien entendu, que toutes les opinions soient bien comprises. Et on a un rapport initial où les recommandations proposées sont présentées, où les personnes puissent également se faire entendre pour dire s'ils sont d'accord avec les recommandations ou pas, qu'est-ce qui les intéresse. Alors, à ce moment-là, la recommandation sera révisée par le groupe. Les recommandations seront ajustées dans la mesure des besoins. Et puis, il y a également la considération du conseil d'administration de l'ICANN, des recommandations qui lui sont présentées. Je vois également qu'on demande par rapport à la résolution de conflits. C'est une bonne question. Vous imaginez que souvent les discussions ont des personnes qui ont différents intérêts, les personnes ne sont pas toujours d'accord, il y a des problèmes à résoudre. Heureusement, on a des présidents très connaissants pour pouvoir gérer cela. Également les directrices pour la résolution de conflits. On a des lignes directrices à suivre en général. Le conseil de la GNSO facilite son rôle en tant que gestionnaire d'un processus à travers l'assignation de la notion de liaison à chaque équipe de PDP, ce qui veut dire que le conseil, à travers ses agents de liaison, peut superviser les différentes situations et orienter les présidents à travers le processus de résolution de conflits. Ils peuvent également médier entre les différentes parties prenantes qui sont en désaccord ou en conflit. On me demandait par rapport aux outils qui sont disponibles pour les membres. Je ne suis pas tout à fait sûre de ce que cette question implique. Ça pourrait impliquer un peu plus de détails, peut-être pour répondre. En tant que gestionnaire du processus, l'État et le processus ont différents outils pour pouvoir vérifier où on en est. Les PDP ont leur propre plan de travail pour faire le suivi des travaux, pour mettre à jour l'état des lieux du travail au conseil de GNSO pour pouvoir respecter leur jalon. On a également un processus de la GNSO qui fournit des informations au conseil lors des différentes réunions du conseil de la GNSO et qui fait également le suivi de l'état des lieux des travaux des différents groupes. Et le président de chacun de ces groupes, de chaque PDP, va se réunir régulièrement avec les membres du conseil ou avec le conseil au complet pour leur informer de l'état de situation des travaux de son PDP, des différentes questions qui sont discutées, ou alors les présidents des PDP pourraient indiquer qu'ils ont des difficultés avec une partie du travail et qu'il pourrait lui falloir de l'aide au niveau du conseil. Pour faciliter ce niveau de dialogue et ce type de discussions qui se font en général à travers les soins virtuels, par téléconférence, par les décisions, nous avons des mécanismes de collaboration en ligne. Avant, on avait Adobe Connect, maintenant on a la salle de Zoom, qui sont des parties importantes pour faciliter notre travail. Les espaces wiki sont également très importants pour garantir que toutes les informations puissent être partagées. En général, si vous voulez savoir ce qui se passe, on a également la possibilité que les observateurs participent à différents groupes, à différents travaux. Donc, peut-être que les personnes ne peuvent pas assister aux appels, mais veulent suivre les discussions, les listes de discussions. C'est également une manière de pouvoir être au courant de ce qui se passe. Pour pouvoir partager des informations de politique, il y a également du travail de préparation où on élabore différents rapports et des comptes rendus de la situation des travaux au niveau de la politique avant les réunions du CAD en général pour que tous ceux qui sont intéressés puissent se joindre à la discussion et commencer à participer. Et on a également le travail de soutien de politique générale qui couvre les informations de politique, tout ce qui est présenté en général dans notre site web avec les détails, avec les discussions des travaux de notre groupe. Donc, comme je disais, le statut du travail, où et comment les personnes peuvent participer, quelle est l'occasion suivante de participation et de contribution. Comme je l'ai dit, on a également un séminaire web de mise à jour de politique qui se fait lors des réunions de l'ICAN et lors du forum politique. Il y a également un séminaire web dédié au travail de politique de la GNSO et le conseil d'administration doit s'assurer que tout le monde soit au courant du travail qui a été fait et de mettre au courant tous ceux qui sont intéressés aussi pour que tout le monde puisse savoir quels sont les sujets qui sont discutés et qui seront discutés lors des réunions suivantes à l'ICAN et à quoi l'on peut s'attendre. Je vais mettre une question sur le chat qui demande par rapport au vote, est-ce que les membres du conseil qui ont accompli direct une motion spécifique doivent s'abstenir de voter? Il est très bien d'avoir un intérêt ou autrement dit un conflit dans le monde de la GNSO sans que ce soit déclaré d'emblée. Dans la plupart des cas, les membres du conseil sont dirigés dans leur vote. Donc, on peut faire une évaluation directe et le vote sera suivant ce que leur groupe leur demande, en fait. Parce qu'ils sont en train de voter en tant que représentants, pas à titre individuel. Donc, ils peuvent très bien voter à pouvoir fiduciaire pour que quelqu'un d'autre vote en leur nom. Mais on ne parle pas de conflit parce que le rôle du conseil, en fait, est de superviser le processus. Ce n'est pas le conseil qui va faire la politique en elle-même. Ils ont un rôle de représentation, les membres du conseil. Donc, en général, ils doivent voter suivant les indications de leur groupe d'appartenance. J'ai déjà couvert la plupart de ce qui apparaît ici. Dans la plupart des cas, à quelques descriptions près, tout le monde peut participer au groupe de travail de la GNSO. Bien sûr, ça prend du temps, ça prend des efforts. Il est important de répéter encore une fois cette idée que l'élaboration de politique est un travail qui est une marathon, non pas une course de vitesse. On m'a demandé combien dure en général le processus d'élaboration de politique. Si vous voyez les initiatives récentes des groupes de travail consacrés au PDP, prévoyez que les personnes se réunissent de manière hebdomadaire et ça leur a pris entre 1 an et demi et 3 ans, en fonction de la portée de leur cerveau et de temps et les efforts que ça leur prend de pouvoir aborder les différents sujets et de pouvoir passer au rapport final. Mais bien sûr, il y a les étapes finales qui précèdent la formation du groupe. Et il y a également du travail qui se fait une fois que le groupe de travail aura fini ses travaux, par exemple. Les conseillations jugées par le conseil de la CNSO, par le conseil d'administration de l'ICANN, qui doit également délibérer là-dessus. Donc, la ligne chronologique complète peut durer quelques années. Une fois que le conseil d'administration de l'ICANN aura adopté la recommandation, elle devra être adoptée et mise en œuvre. Donc, il y a des processus communautaires. Le personnel de l'ICANN est responsable de mettre en œuvre la politique. Il y a également une équipe de révision de la mise en œuvre qui travaille de près avec le personnel de l'ICANN pour garantir que la mise en œuvre se fasse suivant l'esprit des recommandations originales. Le travail d'élaboration de politique ne se centre pas aux réunions de l'ICANN, qui sont plutôt la possibilité de profiter des réunions en personne, mais la plupart des travaux se font entre réunions de l'ICANN, à travers des appels de téléconférence et à travers les listes de diffusion. On a également essayé de commencer à travailler avec Google Docs pour faciliter la collaboration en ligne et pour que les parties prenantes se réunissent pour travailler sur des documents et des versions communes des documents. Quels sont les sujets qui sont discutés en ce moment à la CNSO? Vous voyez d'abord les différents processus d'élaboration de politique en cours en ce moment. Vous aurez peut-être entendu parler de ce premier processus qui est un profil assez élevé et qui a la participation active de la LAG au sein du groupe. C'est un groupe qui se concentrait sur une spécification temporaire pour l'enregistrement de GTLD et les données d'enregistrement de GTLD. Et ça reflète l'entrée en vigueur du RGPD. Donc l'ICANN a vu à travers cette entrée en vigueur le besoin d'élaborer une spécification temporaire et on considère si ça devrait être une politique de consensus ou pas. Et donc ce groupe devait travailler très rapidement. Ils avaient une date butoir qui s'était imposée d'un an et qui résultait de l'adoption d'une spécification temporaire. Pardon. Pour lesquels la décision doit être prise dans le délai d'un an d'après les statuts constitutifs de l'ICANN. Donc le conseil a décidé de comment mieux pouvoir parvenir à l'élaboration de cette spécification temporaire et donc à travers le modèle de groupe de travail ouvert, il aurait été plus difficile. Donc ils se sont dit qu'il serait mieux d'avoir la participation représentative des différents comités consultatifs et des différentes organisations de soutien où chaque groupe de parties prenantes aurait une quantité de représentants qui pourraient être envoyés pour faire le suivi de ces travaux. Et il y a également eu des observateurs qui pouvaient s'abonner à la liste de travail. Donc ce n'est pas que le travail soit fait en secret. Plutôt, ça veut dire que la participation active est limitée aux représentants des différents groupes pour s'assurer que leurs opinions sont prises en considération et évaluées. Cependant, il y a également eu des occasions de commentaires publics où toutes les personnes qui étaient intéressées pouvaient s'exprimer lors de périodes de consultation publique. Le deuxième PDP se concentre sur les procédures pour le sérieux ultérieur de nouveaux GTLD. Ce PDP doit déterminer si il s'avère nécessaire de faire des modifications à l'introduction existante des recommandations de politique concernant les nouveaux GTLD qui datent d'août 2007. La recommandation sera adoptée par le Conseil d'administration de l'ICANN et par le Conseil de la GNSO et devrait avoir des politiques et des procédures qui seraient proposées comme étant définitives pour l'enregistrement de nouveaux GTLD une fois que le rapport sera prêt. Donc, je suis en train de travailler sur l'élaboration d'un rapport final. Si vous êtes intéressé par ce travail, vous pouvez vous abonner à leur liste de diffusion et suivre leur discussion. On a également la révision de mécanismes de protection de droits dans tous les GTLD. Et ce travail est divisé en deux étapes. Alors, celle où tu te concentres sur les RPM qui sont spécifiquement liés au programme, et dans la deuxième partie de l'entrevue, ils vont se concentrer sur la révision de l'IDRP. Un quatrième PDP qui est presque à la fin de son travail est celui qui porte sur l'accès aux droits curatifs des OIG et des OIG pour protéger leurs droits et les droits concernant leur nom. Cette initiative a présenté son rapport final récemment au Conseil de la GNSO et a été adoptée. Et la plupart de leurs recommandations ont été présentées au Conseil d'administration de l'ICANN. En cinquième lieu, on a une autre initiative importante qui est celle du PDP 3.0, c'est-à-dire que le Conseil de la GNSO travaille sur l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des PDP de la GNSO, voyant des améliorations qui peuvent être apportées ou qui doivent être apportées aux PDP existants ou aux PDP futurs. Et il y a un petit groupe de membres du Conseil de la GNSO ainsi que du personnel qui travaillent ensemble pour voir quelles sont les améliorations qui pourraient s'appliquer et se mettre en œuvre. Et puis, en sixième lieu, il y a également d'autres travaux en cours concernant la révision des processus et des procédures de la GNSO pour s'assurer que tout soit prêt et actualisé pour ce nouvel environnement de la pré-transition où la GNSO est membre de la communauté habilitée. Donc, il y a de nouveaux rôles, de nouvelles responsabilités qui ont été assignées. Nous devons nous assurer que le processus et les procédures appropriées soient mises en place de manière à ce que s'il y aurait une situation où la GNSO devrait agir, elle pourrait le faire. Je vais à une autre question sur le chat et je pense que je suis presque à la fin de ma présentation, donc vous pouvez vous préparer à poser vos questions. On me demande si elle pourrait être la valeur qu'ajouterait la participation de la LAC au groupe de travail de la GNSO. C'est une bonne question. Je dirais que dans le processus d'élaboration de politique de la GNSO, il est très important de comprendre les différents points de vue, les différentes implications, l'impact des recommandations pour les différents groupes, et bien sûr, la communauté des utilisateurs finaux, et c'est une partie très importante de cela. Donc, la possibilité d'avoir la perspective de la LAC est une composante importante de cela. Et je suis contente de pouvoir dire que la LAC, dans sa capacité formelle qu'à titre individuel à travers ses membres, a une participation très active au travail d'élaboration de politique de la GNSO. Et je dirais aussi que dans la plupart des PDP, la LAC a présenté des déclarations informelles pour s'assurer que leur perspective soit entendue et bien comprise. On me demande également si la GNSO doit également passer par un processus de révision dans l'affirmatif, donc avec la fréquence et quand est-ce qu'on avait eu la dernière révision. Bon, suivant la structure de toutes les autres organisations sociales et tous les autres comités consultatifs avicales, autres que le GAC, la GNSO a l'obligation de passer par une révision tous les 5 ans. Il y a eu une révision en 2004, qui était suivie par une autre révision qui a commencé en 2012, si je ne me trompe. Et cette révision a complété ses travaux très récemment. Quand on a une combinaison d'étapes par lesquelles il faut passer, vous avez vu la révision de la LAC qui suit également une approche similaire que celle qui a été suivie par la dernière révision de la GNSO. Donc là, le processus de révision de la GNSO a été complété récemment et je ne sais plus très bien quand on est censé commencer avec notre propre chaîne révision, mais j'imagine que ce sera sous peu. Outre la révision structurelle de la GNSO, il y a également d'autres politiques qui sont adoptées et qui sont révisées suivant un cycle régulier. Non pas seulement l'organisation, mais le résultat de ces travaux aussi. Ça fait partie d'un processus de révision pour garantir que les politiques aient été bien complétées, que les résultats soient ce prévu ou qu'ils font ce qu'ils sont censés faire, voir s'il y a des problèmes à corriger, quels sont ces problèmes, si on ne respecte pas la mission qui nous a été attribuée, etc. Une autre question est si l'expérience de l'EPDT sera utile pour travailler dans des processus qui se limitent dans la durée, dans la vie. Ma réponse est oui. Le groupe avait une chronologie très ferme. Et les spécifications temporaires devaient avoir une validité et donc les exigences c'était que l'on puisse aider les différents groupes de travail et les différentes procédures à pouvoir bien arriver à la fin de leur travail. On se demandait également si c'est naturel d'avoir une limite temporelle. C'est tout à fait artificiel à moins qu'il y ait des facteurs externes. Par exemple, on a eu un PDP sur l'intégration verticale pour savoir si les opérateurs d'enregistrement pouvaient également être des bureaux d'enregistrement et vice-versa. Et quelles seraient les règles qui devraient être impliquées pour s'assurer que les différentes situations sont bien comprises. Et le conseil a essayé de mettre une date butoir, d'appliquer une date butoir définitive pour avoir des conséquences si le travail n'était pas complété avant cette date. Mais cela a résulté à une limitation du travail qui s'est présenté et non pas nécessairement comme moteur pour se réunir et pour se mettre d'accord. Donc à la fin, le PDP n'est pas arrivé à la finalité prévue. Et ils ont fini par adopter quelque chose de similaire, mais qui n'était pas tout à fait la même chose. Donc il faut penser bien quels sont les mécanismes que l'on présente pour le travail. Au moins du côté des conversations du conseil, il est important de savoir qu'on doit travailler de près avec les présidents et les membres des PDP et que tout le monde ait les outils pour pouvoir respecter les délais, pour imposer les limites. Quel est le temps, quels sont les délais, quels sont les résultats. Tout cela est important. Je pense être arrivé à la fin de ma présentation. On a bien complété les questions et les réponses, si je me trompe. J'ai déjà répondu à beaucoup de questions qui ont été posées sur le chat, mais s'il y en avait d'autres, Yeshim, je ne sais pas si vous voyez des mains levées. Si c'est vous qui allez gérer les questions et réponses, je suis contente de céder la parole.
Donc ici Alfredo, merci Marika pour cette présentation qui était claire, je pense pour la plupart des participants. Je souhaitais inviter les personnes qui sont sur le canal français ou le canal espagnol à poser leurs questions. N'hésitez pas, levez la main, les interprètes sont là pour nous aider. Donc je vais donner quelques secondes à ceux qui sont intéressés pour poser leurs questions, surtout si l'anglais n'est pas leur langue maternelle, hein, qu'ils aient cette opportunité. Et entre-temps, j'aimerais rappeler à tout le monde que la semaine prochaine, nous avons notre troisième semaine de webinaire au cours de laquelle nous allons avoir plusieurs intervenants qui vont parler de la CCNSO sur la base du cours qui existe sur Hack and Learn. Et donc, ils vont nous expliquer comment la CCNSO s'occupe de son processus de développement, comment ils sont organisés, etc. Et donc, ceci sera organisé le mardi à 21h UTC et le mercredi à midi UTC. Donc, en fait, ce sera un petit peu le même type d'organisation que nous avons suivi cette semaine. Ce sera donc le mardi. Il s'agit du 7 mai et du 8 mai, donc mardi et mercredi. Y a-t-il des questions sur le canal français, sur le canal espagnol? Yessine, je ne sais pas s'il y a autre chose. Yessine, mon micro. Oui, merci Alfredo. Je suis en train de lire le chat avec les interprètes. Je ne vois rien, je ne vois pas de message de leur part, donc apparemment personne n'a de questions à poser pour l'instant. Merci. Alfredo au micro. Eh bien, ceci étant, je souhaite encore une fois remercier Marika pour cette présentation très intéressante. J'aimerais remercier tous les participants à cette séance ainsi que le personnel qui nous a aidés à gérer ce webinaire. Donc, j'espère qu'on se retrouvera tous la semaine prochaine pour les autres webinaires qui seront organisés. Voilà. Ceci étant, je souhaite maintenant conclure le webinaire. Merci à tous pour votre participation et je vous souhaite une excellente journée. Merci, mon micro. Merci beaucoup à Marika. Merci, Alfredo. Le webinaire est donc terminé. Alors, un dernier remerciement à toutes les personnes qui nous ont rejoints pour ce webinaire. Merci à tous et au revoir.